Sous la direction de Fabien Gabel, avec la complicité du grand violoniste allemand Julian Steckel, qui puisera dans le répertoire de Robert Schumann et celui de Johannes Brahms. Une soirée au cœur du romantisme. Informations sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison.
Les âges, le temps teste tes vertus.
Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu?
Et bienvenue au Grain de Sable en ce samedi ensoleillé. Quel bon temps pour écouter la radio, sur une terrasse, écouter le Grain de Sable. Oui, le Grain de Sable de cette semaine, dans l'engrenage mondial, c'est la Grèce. Donc, nous allons parler de la Grèce avec Étienne Blondeau, un de nos chroniqueurs préférés.
Bonjour.
Diplômé politologue, diplômé en sciences politiques, qui depuis longtemps veut nous parler de la Grèce à l'émission Le Grain de Sable.
Oui, depuis un an environ, j'ai le goût de parler de ce sujet-là. J'ai eu le temps d'assez me remonter sur le sujet, là. C'est que je vais m'y mettre maintenant, parce que on vient de connaître des élections en Grèce récemment. C'était le 20 septembre. Et Alexis Tsipras, le chef du parti de gauche Syriza, est de retour au pouvoir avec un score similaire à celui qu'il a amené au pouvoir en janvier dernier, au tout début de l'année 2015. Alors, il a été élu sur sa promesse d'appliquer le plan, le nouveau plan imposé à la Grèce pour que la Grèce reçoive un autre prêt, on les compte plus, là, de 85 milliards d'euros. Il a dit qu'il formerait une coalition encore avec le même parti de droite des Grecs indépendants. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Syriza maintient son score. Là, il n'a pas été puni pour avoir reculé après avoir fait son référendum où est-ce qu'il avait demandé au peuple s'il s'opposait au plan d'aide, d'aide entre guillemets ici, là, des autorités européennes. Et il est revenu sur finalement toutes ses positions et sur la volonté du peuple, mais il n'a pas été puni aux urnes. Alors, Syriza a à peine perdu 4 sièges et clairement gagnant contre la droite en Grèce. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui arrivent en troisième position en Grèce, c'est l'Aube Dorée, dont les gens ont peut-être entendu parler, le parti néo-nazi, qui récolte 7% des votes et qui ont eu 18 députés, ce qui est pas rien, quand même un nombre important. Vraiment, la différence avec les dernières élections en janvier, c'est qu'il y a moins de personnes, moins de Grecs qui ont cru bon de se déplacer et d'aller voter. 55% des Grecs ont voté, là. À peine plus de la moitié. On voit qu'il y a un certain ras-le-bol, une fatigue, un cynisme, j'imagine.
Sûrement, oui.
Ou est-ce que les Grecs n'ont plus l'impression qu'ils peuvent changer les choses par le vote, par les partis? Alors,
beaucoup de désillusions. Hein. Ici, oui. On vote à 61%. Je sais pas comment ça sera le 19 octobre prochain, mais la tendance est à la baisse depuis les années 60. On est parti de 3/4 de la population qui votait à moins du 2/3. Et là, on s'en va justement aux environs de 50% ici aussi.
Disons qu'en Grèce, il y a moyen d'être cynique, clairement, avec les dernières années. Et, quelques mots sur les transfuges, ceux qui ont quitté Syriza en disant qu'Alexis Tsipras n'était pas assez radical, finalement, qu'il ne choisissait pas des actions pour aider son peuple.
Ou correspondant à ses promesses électorales,
finalement. Ses promesses, oui, du tout début. Alors, on a le groupe de l'Unité populaire, avec comme chef de file Zoé Constantopoulou, dont on a souvent parlé dans les médias, mais qui ont eu un score famélique, hein? Aucun député d'élu.
C'est assez spécial. Ils ont fait tellement parler d'eux que ça s'est pas... il n'y avait pas la prime à l'urne dans leur cas, là.
C'est ça. Donc, finalement, c'était un pétard mouillé que les radicaux qui ont quitté Syriza pour faire ce que Syriza promettait de faire au départ. Alors, 0 députés parmi ceux-là, 18 parmi les néo-nazis. La situation est assez inquiétante. Alors moi, si je peux finir cette introduction, je dirais juste qu'il faut vraiment réfléchir au bilan d'Alexis Tsipras. Qu'est-ce qu'il a réalisé concrètement pour la Grèce, à part d'avoir renforcé les néo-nazis? Faut se poser la question.
Après cette pause musicale des Rolling Stones, un des moments forts pour moi, en tout cas, quand ils sont venus cet été au festival nous chanter leur grand classique, mais un des classiques que je connaissais pas beaucoup et qui a vraiment été très, très émouvant puisqu'il a fait venir une chorale du coin du pays qui nous ont chanté, peut-être vous avez deviné déjà, hein, ceux qui étaient au spectacle, « You can't always get what you want ». Comment on traduirait ça, Étienne?
On n'a pas toujours ce qu'on veut.
Hein? Ah, ça, c'est sûr. Je pensais aux Grecs. Je cherchais une chanson thématique. Donc, je vous rappelle que Le Grain de Sable, ça fait plus de 12 ans qu'Attaque Québec, qui est en fait l'association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, qui réalise cette émission Le Grain de Sable. Bon après-midi. Je vous ai joint un tour, hein? C'était pas la toune que je vous avais annoncée. C'est n'était pas donc You Can't Always Get What You Want, mais on va la voir justement. C'est un bel exemple. On peut pas toujours avoir ce qu'on veut.
C'est ce que je me disais.
J'ai deux disques des Rolling Stones et puis vous venez de comprendre que c'est probablement la pièce de l'autre disque. J'ai inversé mes albums et je m'en excuse. Vraiment, et je vous promets que d'ici la fin, vous l'aurez entendu, cette chanson. Revenons à nos moutons, et d'ailleurs, je dois vous dire qu'une des bonnes nouvelles, en deuxième partie, en plus d'Étienne Blondeau, qui est avec nous pour nous parler de la Grèce aujourd'hui, puis des conséquences de tout ce péripétie, comment est-ce qu'on pourrait dire, ce théâtre...
Une tragédie grecque.
tragédie grecque, qui sont, évidemment, comment on pourrait dire, sont remis au calendrier grec aussi, comme résultat espéré. Alors, nous aurons Jacques B. Gélina, essayiste très connu, qui sera avec nous, ce sociologue, essayiste et conférencier, qui est l'auteur de « Et si le tiers-monde s'autofinançait? La globalisation du monde, le virage à droite des élites politiques québécoises, on pourrait dire et grec, hein, le modèle québécois peut sûrement s'adapter à ce qui se passe, parce que c'est un phénomène mondial, ça, le problème de se faire financer par des banques privées pour des États... Providence.
Ouais.
Alors ça, on pourra en parler un peu plus tard, justement, avec Jacques Bégélina, qui est aussi l'auteur du dictionnaire critique de la globalisation, tous parus aux éditions Éco-Société, qu'on aime bien, hein, avec leurs écrits aussi avec Alain Deneau, sur les paradis fiscaux et tout. Donc, revenons à nos moutons grecs, c'est le cas de le dire.
Oui, en fait, je voulais résumer la situation. Pourquoi on parle d'une crise en Grèce et surtout d'une crise qui connaît pas de dénouement, hein? Elle existe depuis 2008, on est en 2015, en fait la majorité de l'année est passée et c'est toujours pas réglé. Le problème ici, c'est que tous les acteurs, que ce soit le peuple, le gouvernement grec ou les autorités européennes, frappent le mur parce que lorsqu'on a des positions et des volontés incohérentes, impossibles à obtenir, inévitablement, on subit des conséquences, on frappe un mur. Alors, je vais distribuer le blâme, si vous me permettez. D'abord, avec le peuple grec. Si on se fie à leur vote pour Syriza, encore et toujours, eh bien, ils ont des volontés contradictoires. Ils ne veulent plus d'austérité, et ça se comprend, on les comprend parfaitement, mais en même temps, ils veulent être gérés par l'Europe. Ils veulent rester dans le giron des institutions européennes. En gros, on pourrait presque dire qu'ils aimeraient être gérés comme le sont les Allemands, avec des bureaucrates allemands experts en économie, ce qui est compréhensible, encore une fois, parce que l'État grec a été longtemps corrompu, népotiste, avec beaucoup de problèmes de gestion. Alors, c'est très compréhensible. Mais on peut dire que le peuple grec est dans le déni, parce que ce qu'ils souhaitent est impossible. Les bureaucrates allemands vont jamais gérer des pays autres que l'Allemagne comme ils gèrent leur propre patrie. Leur patrie, ils n'en ont qu'une seule, c'est l'Allemagne. Et les autres peuples européens n'en ont rien à faire si les Grecs souffrent de l'austérité. Les Européens n'ont jamais montré vraiment d'indignation qui les porterait à mettre fin à l'austérité en Grèce. Ils n'en ont rien à faire concrètement que les vieux, que les Grecs les plus âgés meurent dans la pauvreté, sans pension, sans médecin de famille, ou que les jeunes Grecs se suicident en masse. Et aussi, on voit pas de signe qu'ils ont quoi que ce soit à faire qu'un parti néo-nazi mousse autant et ait autant de partisans en Grèce. Ce qui est franchement inquiétant. Et comme preuve que le traitement des Grecs est différent de celui, par exemple, dans l'Allemagne ou des pays proches de l'Allemagne, moi, l'histoire que j'ai croisée, c'est qu'il y a une banque autrichienne qui, lorsqu'elle était endettée, a eu droit à un moratoire sur sa dette. Elle n'avait pas à payer les intérêts sur sa dette, alors que c'est ce que Alexis Tsipras demandait. Les Grecs disaient « On veut un moratoire sur la dette jusqu'à ce qu'on ait réglé la situation. » Alors, ce qui est bon pour les banques autrichiennes, on aurait pu croire que ce serait bon pour le peuple grec. Eh bien non, c'est juste cette banque ETA Asset Resolution AG qui avait découvert qu'elle avait une bagatelle de 7,6 milliards d'euros de pertes en mars dernier. Ces avoirs toxiques-là étaient possédés par d'autres banques. Si elle avait coulé, elle aurait entraîné toutes les grandes banques allemandes avec elle. Alors, elle a eu droit, très gentiment, à ne pas avoir à respecter ses dettes, ce que Alexis Tsipras demandait encore et encore, sans l'obtenir. D'ailleurs, Tsipras lui-même avait une position qui était, je dirais, contradictoire. Il disait, on va négocier avec la Troïka, ça c'est les autorités étrangères que sont finalement la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international. Tsipras, il promettait aux Grecs que s'il était élu, il mettrait fin à l'austérité, il revigorerait l'économie grecque, le tout sans quitter l'euro. Alors finalement, il promettait quelque chose d'impossible, il promettait qu'il allait obtenir tout ça, bref le paradis, par des négociations avec la Troïka. En gros, sa promesse électorale, c'est la Troïka. Laissez-moi leur parler un instant et ils seront tout à coup, soudainement, gentils. si je résume ça en une phrase, alors que la question c'est « Mais qu'est-ce qu'il en sait qui se montreront gentils devant celui qui était déjà présenté dans la presse comme un gauchiste radical et détestable? » Qu'est-ce qu'il y peut et comment il peut changer l'attitude d'autorité, de bureaucrate étranger? C'était vraiment contradictoire et on ne peut pas s'étonner qu'il n'ait pas rencontré beaucoup de succès. Et finalement, il a choisi, là je pense à son ministre des Finances, Varoufakis, dont on a souvent entendu parler aussi, qui lui, la presse faisait aussi grand cas de son bras droit Varoufakis parce qu'il avait étudié dans la théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est les espèces de jeux de ruses, de duperies, où chaque joueur essaie de tromper l'autre en mentant sur ce qu'il fait ou en cachant ce qu'il fait pour finalement s'en sortir gagnant alors que l'autre joueur est perdant. Des espèces de jeux de ruses et de tromperies comme ça. Varoufakis, lui, a étudié dans les théories qui entourent tous les jeux de ce type-là. Et Varoufakis, lui, se tuait à répéter à tous ceux qui voulaient bien l'interviewer que non, il ne jouait pas selon la théorie des jeux. Il n'y avait aucune ruse, aucun stratagème. Il parlait sincèrement avec les bureaucrates de l'Europe et il voulait négocier de bonne foi. Alors, il n'agissait pas en stratège. Encore une fois, il était, humble et... Et naïf, finalement.
Et moi, en lisant reporter.net, que j'aime bien citer, et d'ailleurs, on aura peut-être une minute, une question de leur part en rapport avec le résultat du référendum au mois de juillet. Il y a un leader du parti de Tsipras qui a été cité. Et vous savez, on parlait de la dette. La dette, là, c'est un outil d'asservissement des peuples par les détenteurs de capitaux. Hein. Ici, on sous-entend les fameuses banques privées qui mettent la pression sur la Grèce. Tant qu'on n'a pas compris cela, on ne peut pas comprendre l'utilité de la dette. Depuis 40 ans, les ex-colonies, puis là on fait référence à l'Afrique, sont asservies par la dette. Et pour la payer, elles exportent. Car cette dette est en devise. Leurs ressources naturelles, qu'elles soient minières, fossiles ou végétales, c'est ça qu'on veut qu'ils exportent. Et une fois qu'elles ont reçu des devises en paiement, des bananes, du cacao, du pétrole et du cuivre, elle renvoie une partie de ses devises à titre de remboursement des intérêts de la dette. Cela fait 40 ans qu'on entend dire, en France par exemple, qu'on aide les Africains, mais c'est pas vrai. Au nom de la dette, les transferts des pays en développement vers les pays riches ont été énormes, de l'ordre de 5 à 10 plans Marshall. La dette est un transfert du pauvre vers le riche. On est exactement dans le même cas de figure avec la Grèce, que l'on n'oblige à vendre ses côtes, ses îles, ses plages, hein, parce que tout le monde connaît la beauté du paysage grec, qui en fait les îles sont grecques, souvent, mais le continent est turc, mais on est bien plus porté à aller voir les Grecs que les Turcs, puisqu'ils font partie de l'Europe, puisqu'ils ont l'euro. La politique de la zone euro est-elle un néocolonialisme? Je pense que la question se répond par elle-même.
Ça se répond assez facilement, et d'ailleurs c'est intéressant que vous mentionniez la dette, parce que toutes ces solutions, ces plans d'aide, c'est mensonger, on peut pas appeler ça de l'aide, parce qu'on a quelqu'un, imaginez la Grèce comme quelqu'un qui serait criblé de dettes, un individu qui devrait des milliers de dollars, et là quelqu'un dit « je vais t'aider, je vais te prêter 100 dollars de plus ». Qu'est-ce qui va arriver? C'est lui, il est sans le sou, criblé de dettes, qu'il a tout perdu, qu'il est fatigué, que ça dure depuis des années, et on lui prête encore plus d'argent? Est-ce qu'on s'attend à ce que ça l'aide? Est-ce qu'on s'attend à être remboursé? C'est une pure folie, hein? D'ailleurs, il y en a beaucoup qui définissent la folie comme étant le fait de réessayer toujours la même chose en s'attendant à des résultats différents. Alors, si on prête encore à un endetté, eh bien, ça se rajoute à sa dette.
Donc, absolument, c'est du néocolonialisme à l'européenne d'aujourd'hui. C'est une forme de néocolonialisme où, au nom de la dette, on crée des plans d'austérité qui sont une copie conforme des plans d'ajustement structurel des années 80 qu'on a fait vivre aux Africains. La finalité de ces plans est le même, en fait, si on veut dire, il faut vendre l'ensemble des ressources pour payer la dette et il faut laisser entrer les capitaux qui vont pouvoir faire fructifier ces ressources et rapatrier ensuite leurs bénéfices grâce à la dette. On justifie toutes les privatisation.
Oui, ben c'est ça, parce que l'austérité n'a rien d'une aide. En fait, ce qui se produit dans chaque pays qui subit l'austérité, c'est très simple. C'est imaginer une boutique en faillite qui dit « on fait des ventes de feu, tout doit partir à des prix risibles ». Mais c'est ça qui arrive en Grèce. Ils vendent leurs îles paradisiaques pour une bouchée de pain. Et c'est vraiment ça la situation. On exploite la crise et la souffrance des gens pour vendre tout ce que leur État a pu bâtir d'utile pour une bouchée de pain. Ce qui est franchement inquiétant.
Bref, on est dans le déni.
Oui, on est dans le déni. Et vraiment, moi, je vous avais dit il y a un mois que toute la situation se résumait par une phrase dite par un courtier d'assurance allemand qui aurait admis qu'en fait, il torturait la Grèce pour que l'Italie entende les cris de la Grèce. Hein? Vraiment, c'est pas pour aider la Grèce.
Et l'Espagne, peut-être?
Oui, c'est pour qu'elle souffre, pour que tous les autres pays qui suivraient là, ce qu'on appelle des fois les pigs en jargon, là, Portugal, Italie, Grèce, Espagne, pour qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas avoir des idées de dissidence. Sinon, ils souffriraient autant que la Grèce. Écoutez les cris des Grecs et n'agissez en rien pour aider votre situation.
Parlant de silence, bon, salut nos amis catalans qui vont peut-être faire brailler les Espagnols de Madrid demain. Élection référendaire importante. Éventuellement, j'imagine qu'on pourra en parler, voir quel est ce grain de sable des Catalans dans l'Espagne fédérale. L'Espagne qui ne veut pas se faire diviser. On peut comprendre très bien ce genre de débat ici, surtout pendant nos élections actuelles où, en fait, ça n'en est pas vraiment un enjeu. Il y a d'autres enjeux, malheureusement, qui sont, selon moi, moins importants. Mais on a quand même eu un débat où on a parlé de mondialisation, mais vous savez, est-ce qu'on a entendu parler de la Grèce pendant le débat électoral des chefs cette semaine, la semaine dernière?
Non, j'en ai pas eu tellement l'impression. La Grèce, c'est finalement, je crois, un sujet qui a épuisé tout le monde. Je crois que lorsqu'il n'y a jamais de nouvelles optimistes, de nouvelles encourageantes ou de changements, on a moins le goût d'en parler, hein. Il n'y en a pas de changement dans la situation, c'est aussi simple que ça. Un endetté à qui on accorde de nouveaux prêts et de nouvelles souffrances, eh bien, il n'y a pas d'amélioration à prévoir. C'est aussi simple que ça. Et en fait, la situation empire, là, si on regarde ce qui s'est passé depuis le début de la crise, la Grèce a perdu le tiers de son PIB. Et tout le monde, selon Varoufakis, tout le monde le savait, que l'austérité est un poison, est en aucun cas un remède. Ce qu'il fallait faire, c'était la dette grecque qui était rendue toxique, qui était possédée par les banques européennes. Alors, ces plans d'aide-là visaient à ce que les États européens rachètent et reprennent toute cette dette toxique-là pour qu'elle ne soit pas entre les mains des banques privées. Alors, finalement, ces plans d'aide-là étaient pour les banques privées qui possédaient la dette grecque.
Fait que si on lit leur vote, le peuple grec, ils veulent pas plus l'austérité. Ils veulent être gérés par l'Europe.
Oui, c'est exactement ça. Ils souhaitent avoir une gestion, une meilleure gestion, parce que leur État était assez déficient à ce niveau-là, était assez corrompu. Alors, ils avaient un ras-le-bol et je crois que l'Europe a toujours une image positive auprès des Grecs. Le problème, c'est qu'il faut faire la part des choses. Il faut diviser l'Europe et le peuple européen de l'euro. L'euro qui est un mécanisme qui ne fonctionne pas, de toute évidence. Je pense que c'est prouvé par le fait qu'il y a une si petite partie de la communauté européenne, qui est la Grèce, on parle de 2% de la population peut-être, une partie minime, qui cause une crise irrésoluble, où est-ce que tous les pays de l'Europe se crêpent le chignon et n'arrivent pas à trouver de solution. On voit que l'organisation est déficiente, qu'une si petite partie de l'organisation a une crise et que ça met en péril tout le reste, là, on voit que c'est pas très solide, l'euro. Très fragile.
Non, tout comme l'économie grecque. Vous savez, dans reporter.net, j'ai vu un beau reportage dans le dossier Grèce qui nous rappelait que, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, le peuple grec réussit à se relever debout par lui-même. Certaines entreprises appartenant à des Européens qui ont plié bagage quand ils ont vu la situation économique de la Grèce, ont fait en sorte que certains employés se sont relevés. Et un bel exemple, une grande entreprise en Grèce, tout près d'Athènes, qui avait un bon marché dans la vente de la colle pour le carrelage. Et lorsque le patron a décidé de fermer, les employés ont fait un sit-in, se sont accaparés de l'usine et des machines. Ils ne voulaient pas que les patrons européens reviennent chercher leurs machines pour les amener ailleurs. Alors, ils se sont tenus debout, ils ont fait un blocage, ils ont gardé la machinerie, et en regardant le marché et les possibilités qu'il y avait alentour d'eux, ils ont dit « Écoute, on a des surplus en huile d'olive, on va fabriquer du savon. » Alors, ils se sont mis à fabriquer du savon. Il y a une cinquantaine d'employés sur les 200 qu'il y avait à l'origine qui sont restés à fabriquer du savon pour essayer de trouver du marché. Mais évidemment, quand on n'a pas l'expérience et qu'on n'en a jamais fait, c'est bien beau de faire ça dans son sol ici puis de vendre ça à ses voisins. Mais ils ont quand même eu une belle initiative d'organiser des marchés publics où les gens qui ont des produits à vendre ou à échanger vont se rendre. Et eux vont en profiter sur le stationnement de leur usine, dans un parc industriel qui est un peu comme Détroit, ceux qui connaissent l'image des parcs industriels de Détroit, où sont rendus des champs de patates ou des champs de blé d'Inde, où le gazon pousse à travers l'asphalte des stationnements, des usines qui étaient prospères jadis il n'y a pas si longtemps. Eh bien, la même chose, les gens ont repris leur stationnement en main, ils ont fait un marché public, où là, les gens du coin viennent vendre leurs propres patates qu'ils font pousser eux-mêmes, leurs propres blé d'Inde, leurs propres produits locaux. Et il y a comme un marché parallèle qui se crée avec l'initiative des gens. Donc, il y a des débrouillards, il y a des bonnes nouvelles, il y a des belles choses aussi à lire au sujet des REC.
Oui, certaines situations plus encourageantes comme celle-là, mais on voit que c'est plutôt le peuple qui prend en main sa qualité de vie, sa destinée finalement, parce qu'ils n'ont plus grand-chose à attendre des politiciens qui ont montré, je dirais, leur incompétence. D'ailleurs, on en parlera plus, j'imagine, en la seconde moitié de l'émission, mais le problème d'Alexis Tsipras, qui se disait, qui se voyait négociateur en chef pour améliorer la condition des Grecs, c'est qu'il faut avoir un certain savoir-faire pour négocier, et pour être capable de négocier, faut avoir un plan B. Faut toujours avoir cette une arme, une alternative, une carte dans sa manche, au cas où les négociations échouent. Mais non, lui, Alexis Tsipras, était gentil, infiniment naïf, je dirais, et parlait pour parler. Il n'avait aucune alternative que d'accepter, de signer son nom en bas de tout ce que leur proposaient les Européens.
Merci, Étienne Blondeau. Restez avec nous, Jacques Bégina, après cette pause. Quand même, je vais avoir un rappel à cette promesse électorale d'avoir « You can't always get what you want » des Rolling Stones. Salut à nos amis grecs.
What you want. But if you try sometimes, well, you might find. Get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Will you just laugh by? You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. Man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was dead. I said to him, you can't always get what you want. Just might find. You get what you need. Oh, yeah. Woo! In a glass was a bleeding maid. She was practiced at the art of deception. Well, I could tell by her bloodstained hands. You can't always get what you want. It's just my fine. It's just my fine. You get what you need. Oh, yeah. Oh, you can't always get what you want. No, no, baby. You can't always get what you want. Yeah, you can't always get what you want. But if you try sometime, you just
écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires.
Rien n'est plus bouleversant que le printemps. La Rotonde, Centre chorégraphique contemporain de Québec et le Théâtre Périscope présentent L'Éveil du 29 septembre au 10 octobre. Un spectacle au carrefour de la danse et du théâtre, coproduit par les compagnies Le Fils d'Adrien Danse et le Théâtre des Enfants Terribles. Sur une aire gazonnée, 3 hommes et 3 femmes se découvrent, se désirent, se confrontent et rêvent ensemble de réinventer le monde. Informations et achats de billets au théâtrepériscope.qc.ca ou par téléphone au 88-529-2183.
If he wanted something weird to happen in his script, he could just do it.
Du 16 au 27 septembre, c'est le Festival de cinéma de la ville de Québec. Des premières au Palais Montcalm, des parties au 964, la classe de maître de Denis Arcand et Denise Robert, des films événements au théâtre Les Gros Becs, des incontournables au cinéma quartier, des projections en plein air sur Place Diouville de Retour vers le futur 1, 2 et 3, la projection symphonique du fantôme de l'opéra sur l'orgue Casavant. Et ça, ce n'est que le début.
Don't do that, and they do it.
Billet fcvq.ca.
Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% au Café Castello, 2909 Première Avenue. CaféPremièreAvenue.com. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
Le gros lot du prochain tirage au Loto 649 est évalué à 21 millions, en plus du million garanti. Dis-le à ta famille, à tes amis. Dans le fond, non. 4 pour toi.
Evangelis Goulas, comment interprétez-vous cette victoire du non au référendum grec?
Malgré la campagne de la terreur médiatique en Grèce, malgré les déclarations des dirigeants de l'Europe, des non élus, j'insiste, qui ont essayé d'intimider le peuple grec en lui posant les fausses questions, ils ont essayé de changer la question. Imposer le dilemme oui à l'Europe et non c'est non à l'Europe et à la monnaie commune, le peuple grec n'a pas eu peur. Le peuple grec a soulevé sa tête et avec une grande force. Il a crié non, il a voté non. Et ce non, c'est énorme. Ce n'est pas que les 10%, ce n'est pas que les 10% de différence, 61 à 40. C'est un non qui a sorti par une bataille géante contre les dictats et d'une oligarchie des médias en Grèce et dans toute l'Europe, je veux dire, ils ont fait une attaque sans précédent et ils ont violé, je parle de la Grèce, les médias privés en Grèce, ils ont violé chaque règle de l'objectivité. C'est une grande victoire pour le peuple grec. C'est le peuple grec qui...
Et aussi pour l'Europe.
Et aussi pour le peuple d'Europe. C'est le peuple grec qui... pose l'ultimatum aux bureaucrates de Bruxelles et ils disent soit l'Europe sera démocratique, soit l'Europe n'existe pas. Il n'est pas question qu'ils pensent qu'ils vont forcer la Grèce à quitter l'Union monétaire, tout ça. C'est les peuples d'Europe qui vont prendre, à partir de ce moment, ils vont devenir un acteur dans cette négociation.
Evangelis Goulas pour Reporter le 5 juillet 2015.
OK, donc ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'était des réactions de membres de Syriza suite à la victoire du non au référendum. Où est-ce que les Grecs ont eu à se prononcer sur le plan d'aide, entre guillemets, de l'Europe et qu'ils ont dit non. Et ce référendum-là, organisé par Alexis Tsipras, semblait servir à donner comme une arme de négociation pour qu'Alexis Tsipras soit plus fort face à ses négociateurs de l'Europe, parce qu'il saurait que le peuple s'était prononcé contre les plans antérieurs. Alors, je parlais de comment avoir plus de force dans une négociation tout à l'heure. Et maintenant que Jacques Bégelina est avec nous, d'abord, merci d'être là. Je voulais vous poser tout de suite une question. Est-ce que comme force, comme atout dans une négociation, le meilleur pour Alexis Tsipras, ça n'aurait pas été la sortie de l'euro, de se préparer pour la sortie de l'euro avant de négocier? Est-ce que ça l'aurait aidé dans la négociation, selon vous?
Bien sûr que ça l'aurait aidé. S'il y avait eu un plan B... Mm-hmm. Mais moi, je pense que Alexis Tsipras n'avait pas du tout l'idée de sortir ni de l'euro, ni de l'Europe. Et de fait qu'il a été, que c'était non seulement un type gentil et naïf, mais c'est un fin renard. Mm-hmm. Ouais, c'est un politicien qui a préféré, après le non du référendum, de renier son peuple, en fait, deux fois, l'élection puis le référendum, et qui a préféré, pour garder le pouvoir, de ne pas prendre les actions nécessaires pour faire prévaloir l'intérêt de son peuple, l'intérêt de la Grèce.
Oui, et la sortie de l'euro est non seulement... Est-ce que vous seriez d'avis que ça aurait aidé le sort du peuple grec? Est-ce que vous êtes aussi d'avis que c'est une option réaliste, même à l'heure actuelle?
Oui, premièrement, c'est une option réaliste, mais premièrement, il faut dire que l'euro, en soi, c'est un mauvais système monétaire. Donc, parce que la monnaie, ça représente l'économie d'un pays. Une économie qui est dans une situation donnée, par exemple, la situation de l'économie de l'Allemagne n'est pas du tout celle de la Grèce ou celle de l'Espagne ou celle du Portugal. Donc, chaque entité économique, chaque économie nationale doit maîtriser son propre système monétaire pour pouvoir intervenir sur les prix de la monnaie, donc par les taux d'intérêt et par les taux de change. Oui. Donc la Grèce, en entrant dans l'euro, un pays qui était déjà faible, appauvri par la corruption de ses dirigeants, etc., etc., des mauvais emprunts, des emprunts illégitimes. Alors, quand la crise est venue, en 2008, 2007, 2008, l'Europe a choisi l'austérité. C'est-à-dire, au lieu de favoriser l'investissement, ils ont dit qu'il fallait couper dans les dépenses, comme ici au Québec actuellement, avec nos politiciens et à Ottawa. Donc, c'est devenu une espèce d'idéologie qu'il faut couper dans les dépenses, quitte à faire souffrir le peuple.
Oui,
alors, il y avait un plan, il aurait pu prendre un plan alternatif, c'est-à-dire, pour avoir un plan alternatif, c'est-à-dire sortir de l'euro. Il y en a d'ailleurs qui l'avaient élaboré. Le ministre des Finances de Tsipras, au début,
Varoufakis,
avait commencé à en élaborer un. Puis Éric Toussaint, celui qui était le président là, pour l'audit sur la dette, qui a été déclarée illégitime, illégale et odieuse. Donc, il avait proposé un plan. Le premier pas qu'il devait faire, c'était de nationaliser la banque.
Oui.
Donc, la banque centrale, qui était déjà à 80% à propriété des institutions politiques, des institutions de l'État, donc, mais que le gouvernement en avait perdu le contrôle complètement. Le directeur de la Grèce, le PDG de la Banque centrale, était l'ancien ministre des Finances de l'administration néolibérale d'avant.
Ouais, okay.
Et pendant tout le temps qu'ils ont été au pouvoir, pendant 6 mois, ils n'ont pas changé. Tsipras n'a pas changé, donc ça aurait dû être la première chose. Donc, commencer par nationaliser le système bancaire pour contrôler leur système monétaire. Deuxièmement, interrompre le paiement de la dette. Mm-hmm. Donc, dire aux créanciers, à l'Europe, on n'a pas d'argent, on ne paye pas. Alors, si vous... Donc, il aurait été en position de force, parce que si vous, vis-à-vis de la banque, vous leur devez 100 $ vous êtes en position de faiblesse, là, ils vont c'est vous ça. Étouffer, ils vont envoyer un huissier, puis ils vont vous faire payer. Mais si vous leur devez 1 million de $ donc, la banque va vous respecter.
C'est ça, c'est eux qui sont dans le trouble.
C'est ça, c'est eux qui vont dans le trouble. Ils ne vous mettront pas dans la rue, là, parce qu'ils vont perdre leurs 1 million de $ Donc, la Grèce aurait pu faire ça. Donc, dit qu'ils interrompaient d'abord le paiement de la dette. Ensuite, établir un contrôle sur l'échange. Convertir les dépôts à réinstituer la monnaie nationale, le drachme. Oui. En parallèle, s'il le faut, avec l'euro. Et aussi, il y avait une des propositions, c'était d'instituer aussi en parallèle une monnaie électronique. Mm-hmm. Donc, qui aurait pu fonctionner dans une transition entre l'euro et puis la nouvelle monnaie nationale.
Oui, ce qui est intéressant, c'est de savoir que d'abord, des pays qui quittent des unions monétaires, il y a des précédents historiques, il y a même un tas de précédents historiques. Moi, j'ai entendu parler du cas tchécoslovaque.
Exactement.
C'est ça, la Tchéquie s'est séparée de la Slovaquie et pendant quelque temps, ils ont essayé d'avoir une monnaie commune et ça a duré, de ce que j'ai lu, un mois avant que finalement...
C'est-à-dire, oui. Donc, premièrement, pour l'instituer l'euro, il y avait eu aucune étude sérieuse.
Oui.
Deuxièmement, comme vous l'évoquez, on aurait pu évoquer les précédents historiques. Alors, ça s'est jamais vu que deux États indépendants pouvaient être co-gérés par une monnaie commune.
C'est ça.
Donc, quand, après la chute du mur de Berlin, quand la Tchécoslovaquie s'est divisée entre la République tchèque et la République slovaque, ils ont pensé de garder une monnaie commune.
Oui.
Et ça a duré, comme vous le dites, là, pas longtemps, parce que ça marchait pas. Alors, là, peut-être que vous allez me dire, Parizeau, il voulait, avec l'indépendance du Québec, garder la monnaie canadienne.
Ouais, j'y pensais.
Eh bien, moi, je pense que Parizeau a fait un écart cette fois-là, comme il en a fait beaucoup d'autres, d'ailleurs.
Mm.
Alors,
est-ce qu'il aurait été mieux avec le dollar américain?
Il aurait été mieux avec une monnaie canadienne, une monnaie québécoise. Si le Québec se séparait du Canada, donc il fallait qu'il institue sa propre monnaie tout de suite. Alors, pour ne pas faire peur au peuple,
oui.
Parizeau a dit non, il n'y a pas de danger, on va garder la monnaie canadienne. Oui, mais autrement dit, l'indépendance économique sans l'indépendance financière et monétaire est un leurre.
Ça, il faut que l'État dispose de tous les outils régaliens qu'on dit souvent, là, dont la monnaie,
exactement.
Pour agir.
Vous voyez qu'est-ce que fait la Banque centrale américaine, la Fed, là, comme on dit. Alors, chaque mois, ils voient s'ils vont augmenter les taux d'intérêt ou les diminuer.
Oui.
Donc, c'est la même chose au Canada. La Banque centrale, là, on attend sa décision. Est-ce qu'elles vont monter les taux d'intérêt? Donc, ils régulent l'économie avec la monnaie. C'est pas l'unique moyen, mais c'est le moyen essentiel.
Et donc, en terminant sur ce sujet, M. Jacques Bégélina, Étienne Blondeau, est-ce qu'il y a de l'espoir pour nos amis grecs?
Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'ils sont rendus assez creux? Actuellement, le peuple...
Les vaches maigres!
Le peuple grec a été trahi deux fois dans l'espace de 6 mois. Alors là, il est fatigué. Il avait commencé à manifester bien avant, là, depuis 5 ans qu'il manifestait. Il y a eu des émeutes... dans les rues, là, bien avant l'élection du mois de janvier où le parti Syriza... Et soit dit en passant, le parti Syriza, que tous les journalistes disent radical, de gauche radical. Rien de radical, je ne sais pas pourquoi qu'ils répètent ça.
Ah, bon, non,
parce que Syriza, c'était une coalition gauche-droite où la droite prédominait. Et c'est pour ça que Tsipras, il a su dès le début qu'il ne pouvait pas aller plus loin.
Merci beaucoup, M. Jacques Bélina. Je rappelle que vous êtes l'auteur « Le virage à droite des élites politique québécoise. Peut-être qu'il faudrait adapter votre titre au grec.
Oui, ben oui.
Aussi auteur de Dictionnaire critique de la globalisation, les mots du pouvoir, le pouvoir des mots, toujours aux éditions Éco-Société, la globalisation du monde, laisser faire ou faire, un ouvrage que j'ai connu il y a plusieurs années de ça. C'est un must. Et votre dernier ouvrage, le néo-libre-échange, l'hypercollusion business-politique. C'est une copie que vous nous avez donnée la première fois que vous êtes venu il y a 2 semaines. Et on l'offre à nos auditeurs pour ceux qui veulent en savoir plus sur le libre-échange par M. Jacques Bégélina. Vous allez téléphoner d'ici 2 heures au 418-640-1586. Et notre assistant technicien va se faire un plaisir de répondre au téléphone, prendre vos coordonnées, et vous pouvez même avoir une dédicace de M. Gélina lui-même. Mais avant de vous laisser, je sais que ceux qui lisent l'autre journal, peut-être Étienne, tu lis ou toi aussi l'autre journal,
oui.
Il y a toujours de bons articles qui traitent entre autres de l'indépendance du Québec, évidemment. Mais vous avez un titre intéressant, je pense, M. Gélina, dans ce journal auquel vous collaborez maintenant, avec des chroniques à chaque numéro. Comment l'UPA a viré capot pour se jeter dans un piège néolibéral? Qui d'autre que vous pour répondre à cette question-là?
Alors, oui, c'est ça, parce que l'UPA, au début, quand sont arrivés les nouveaux accords de libre-échange, Canada, États-Unis, l'ALENA, le libre-échange nord-américain, l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, était contre le libre-échange. Mmh. Donc, toutes les instances de l'UPA étaient contre le libre-échange. Mais le gouvernement de Robert Bourassa, qui était pour, alors finalement a manœuvré là, avec le ministère de l'Agriculture, Yvon Picotte, pour coincer le président de l'UPA, Jacques Proulx, qui, un peu comme Tsipras, a viré capot dans un congrès organisé par le ministère
lien,
de l'Agriculture. Alors, maintenant, ils s'en mordent les lèvres, parce qu'ils ont, mais ils se sont jetés dans le libre-échange. Alors que le libre-échange et la gestion de l'offre sont radicalement opposés. Donc, en se mettant dans le libre-échange, ils perdaient la gestion de l'offre. Aujourd'hui, là, ils paniquent parce que les accords, ça continue. L'accord transocéanique, l'accord
avec
le Pacifique, ouais. Transatlantique, Transpacifique. Alors, dans les journaux, vous avez vu des grandes pages d'annonces de l'UPA, parce qu'ils paniquent, là, ils vont perdre la gestion de l'offre.
Surtout si les conservateurs reviennent au pouvoir.
Ouais.
Je pense qu'on le deal est qu'on vend le pétrole sale aux Européens, puis en échange, les Européens ont le droit de nous vendre plus de fromage. Combien de milliers de tonnes de plus de fromage importé on aura pour avoir eu cette acceptation en Europe qui ne faisait pas l'unanimité, d'ailleurs?
Oui, mais là, ça va être encore pire avec l'accord transpacifique, parce que là, ils vont laisser les produits laitiers américains, c'était dans les nouvelles aujourd'hui, qu'ils vont laisser les produits laitiers américains rentrer au Québec. Hmm. Alors donc, la gestion de l'offre, là, maintenant, elle est abîmée. Donc, c'était écrit dans le ciel que ça arrivera un jour.
Et dans la terre aussi. On salue nos amis agriculteurs de l'UPA qui nous écoutent. Et écoutons, invitez M. Gélina comme conférencier. Il va tout vous expliquer ça en détail. Puis il va pouvoir vous rappeler l'importance de ce qu'on trouve dans les livres de M. Gélina. Restez avec nous. Ce que l'on sème avec le groupe Trio pour un peu de greenwashing.
J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé.
Et toi?
Une main tendue, une rose.
J'aurais aimé de toi la certitude d'un geste. Simplement quand ça ne va pas,
ne pas se fuir comme la peste. Ils en étaient dépousselés de voir que l'on venait tomber. Les premiers s'étonnaient de noter ce que l'on sait. Ce que l'on sait.
J'aurais préféré, ma foi, éviter nos sombres démences. Et maintes fois oublier partir en vacances.
En vacances de toi. Mais comme l'amitié nous rattrape à chaque fois.
Autant tenir quand ça dérape.
Ils en étaient dépossédés de voir que l'on
tenait
pas bien. Et les premiers s'étonnaient de récolter ce que l'on sait. Ce que l'on sait. Ce que l'on sait. J'aurais préféré, tu sais, tenir le cap et sauver les murs. Courir sans m'arrêter, ne pas frissonner sous l'armure.
Et j'aurais voulu, tu sais, la longue traversée tranquille.
J'aurais même imaginé ne jamais attendre une rive.
Ils en étaient dépoussolés de voir que l'on peut les former. Et les premiers étonnés de récolter ce que l'on sait. Ce que l'on sait. Ce que l'on sait. J'aurais aimé, tu sais, éviter nos fausses mesures. J'aurais même préféré de nous une lettre d'injure.
J'aurais voulu parfois, oui, t'étrangler aux quatre vents, te serrer dans mes bras. Ah ça, je l'ai voulu souvent.
Ils en étaient dépoussolés de voir que l'on devait promener. Et le premier s'étonner de récolter ce que l'on sait. Ils en étaient dépoussolés de voir que l'on devait promener. Le premier s'étonner de récolter ce que l'on sait, ce que l'on sème, ce que l'on sème, ce que l'on sème, ce que l'on sème,
ce que l'on sème du groupe Trio. Merci à Étienne Londeau, merci à Jacques Bégelina. J'espère que vous reviendrez avec nous sous forme de capsule, sous forme de chronique. On a vraiment apprécié ce temps qu'on a passé ensemble, ce beau samedi au grain de sable. Des activités intéressantes à suivre. Le 30 septembre prochain, on bloque pour les groupes en défense collective des droits. Ici, tout le monde à Québec se rallie pour faire de grandes manifestations. Donc, informez-vous, vous allez sûrement en entendre parler. Le 30 septembre, on bloque. Élections et climat, oui, au Musée de la civilisation. Ce mercredi prochain, 30 septembre à 19h, Camille Bouchard, co-auteur de l'Élan global, ex-député de l'Assemblée nationale et un des rares péquistes de gauche qu'on connaît, très sensible au milieu de l'éducation et aux écoles vertes. On le salue, Camille. Dominique Champagne, co-auteur de l'Élan global, metteur en scène très connu, hein, cinéaste qui veut parler de pétrole. Eh bien, voilà, ils seront au Musée des civilisations samedi pour un débat de oser, douter, réflexion citoyenne. La semaine prochaine, un spécial Alternadiba. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais cette grande rencontre qui aura des chefs d'État à COP21, il n'y aura pas seulement que des chefs d'État, il y aura aussi des gens qui ont roulé en vélo à travers 6 États, 187 territoires. Et on a Marie-Christine Aubin, une chroniqueuse de Grain de Sable l'an dernier, qui est là-bas, qui a assisté à l'Alternatiba d'Orléans et qui sera avec nous sous forme de reportage. Donc, on se fait un spécial sur les changements climatiques samedi prochain. Merci.
Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix.
Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant.
Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais.
Voilà.
Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus.
Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux.
Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans.
Puis en dedans, il y a du gravy.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble.
Oh my God, qu'on est rendu loin!
Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, oh Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui...
Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez...
L'amour a des ailes, Bonté divine, Les Mignons, Mission Impossible Rogue Nation, On voulait tout casser, Scratch, Straight Outta Compton, toute première fois.
Et à ne pas manquer au Musée de la civilisation...
Paul à Québec.
Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Le 27 septembre prochain, pourquoi ne pas courir pour une bonne cause? La course de la cité Limoilou Sport Expert vous invite à découvrir le parcours le plus urbain de Québec. Peu importe votre niveau, allez-y à votre rythme et choisissez votre parcours de 5 ou 10 km. Les enfants pourront aussi participer au 1 km.
Réservez votre dimanche le 27 septembre de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacitelimoilou.ca. La Course de la Cité Limoilou Sport Expert vous est présentée par la Société de développement commercial 3e Avenue, courseapied.ca, la Pharmacie Brunet et la Caisse des Jardins Limoilou.
Pour vous aider à faire votre choix aux élections fédérales 2015, l'équipe de CKRL 89.1 s'associe à montlimoilou.com et Équiterre afin de vous convier à un débat présenté le mercredi 30 septembre à 19h au Centre Jean-Guy Drolet, 16 rue Royale-Roussillon. Vous aurez l'occasion d'y entendre quatre des candidats de Beauport-Limoilou. Donny Berberi, du Bloc, Antoine Bugeaud, du Parti libéral, Aloupa Clark, du Parti conservateur et Raymond Côté, du NPD. Vous ne pouvez pas être sur place. Le débat sera diffusé en différé sur CKRL 89.1 le vendredi 2 octobre dès 10h. Attention, attention! Nous interrompons momentanément la programmation régulière car nous venons tout juste d'apprendre qu'après 30 ans de loyaux services, le Bal du Lézard fermera ses portes le 27 septembre pour une période déterminée.
Le bal fait peau neuve pour la 6e fois. On vous attend le 8 octobre prochain dès 17h pour la réouverture.
Le bal du Lézard, toujours la même ambiance dans un nouveau décor. 1049 3e Avenue,
Limoilou. Le gros lot du prochain tirage au loto 649 est évalué à 21 millions, en plus du million garanti. Dis-le à ta famille, à tes amis.